Sébastien Ribeiro, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes gérant chez Keren. On va parler avec vous d'un segment qu'on connaît bien ici, le segment small et mid cap. On s'était croisé hein, à Lyon chez Odo avec beaucoup d'entreprises qui effectivement étaient présentes. Hein, vous avez rencontré, j'en ai rencontré un certain nombre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet environnement small et mid? Elles sont en bonne forme globalement ces entreprises?
Oui, globalement, le discours au sein du forum et là sur les premières publications qui arrivent sont plutôt bonnes. Le climat est plutôt optimiste. Le climat des affaires est de toute façon assez bon, en vrai recovery. Après, il n'y a pas d'euphorie non plus. Donc j'ai envie de vous dire d'un côté, tant mieux. Mais on a des sociétés qui ont des plans de développement, qui ont des plans d'investissement. Et on entend moins de parler de restructuration, de baisse des coûts, etc. Et vraiment d'investissement, de développement. Donc c'est des climats qui sont assez propices aux affaires d'une manière générale.
Quand on regarde ce segment-là sur plusieurs années, c'est vrai que on voit qu'il surperforme largement les autres classes d'actifs. Vous qui les connaissez bien, c'est dû à quoi? Parce que on les connaît pas forcément toutes. On en a de nombreuses ici sur labourseetlavie.com, mais c'est lié à quoi? C'est lié au management? C'est lié à quel facteur?
Il y a plusieurs facteurs. Bon, après, quand on regarde comme ça, c'est vrai que elles surperforment historiquement de quasiment tous les ans. Il y a un facteur qui est commun à toutes, c'est qu'il y a plus de croissance. Il y a plus de croissance dans les petites et ce qui est normal parce que il y a des dirigeants qui sont souvent aussi les actionnaires majoritaires, qui imprègnent une stratégie qui est stable dans le temps. Donc il y a une stratégie qui est mieux déroulée avec un alignement des intérêts qui est parfait et puis une agilité qui est aussi plus forte. Beaucoup d'innovations viennent de ces sociétés-là, donc c'est pas anormal, c'est même assez logique et intuitif. Il y a plus de croissance dans ces petites sociétés parce qu'elles sont plus dynamiques, les stratégies sont mieux développées, le management est plus intéressé, plus stable, et ça fait que c'est des sociétés qui sont plus en croissance et donc qui se valorisent plus cher que les sociétés, que les grandes capitalisations, et qui ont aussi des parcours boursiers qui sont un peu meilleurs.
Est-ce qu'on peut raisonner en sectoriel sur justement ça, ou vraiment c'est du stock picking? C'est-à-dire, le gérant va aller choisir telle ou telle société dans la durée.
Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est effectivement ça. Ce que moi je fuis par-dessus tout, c'est les raisonnements sectoriels. C'est du stock picking. Chaque histoire, dans un secteur qui n'est pas porteur, vous pouvez trouver une très belle histoire de développement. Donc c'est du stock picking. C'est vraiment de l'investissement. On n'est pas dans un casino où de temps en temps on peut dire je mise sur telle ou telle valeur. Là, on investit aux côtés d'entrepreneurs sur des sociétés. Donc c'est vraiment du stock picking aujourd'hui. Nous, après, il y a des thématiques fortes qui ressortent de notre fonds, mais qui ne sont pas faites exprès en réalité. C'est vraiment notre stock picking qui nous conduit à ça. Parce qu'on recherche tel type de société, donc on retombe toujours un peu sur les mêmes profils. Mais le stock picking est vraiment la clé dans ce segment-là.
Alors, on a eu quand même dans cette période, hein, sur les dernières années, une crise financière importante. Donc les sociétés, certaines de ces sociétés-là ont aussi dû s'adapter, ont dû... On parlait de restructuration, certaines abandonnaient certaines activités, en trouvaient d'autres. Je dirais qu'elles ont, malgré tout, elles sont toujours là. C'est quand même assez impressionnant.
Écoutez, on parle de petites sociétés, mais on parle de sociétés qui font plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont des modèles économiques bien établis. Donc ce sont des sociétés résistantes à la crise. Et c'est vrai que... Elles ont toutes souffert à différents niveaux, différents égards et de différentes manières, mais l'agilité, encore une fois, leur a permis de traverser la crise. Et pour beaucoup, on parlait tout à l'heure d'une société comme Trigano. Alors, il ne vous aurait pas dit ça, le dirigeant de Trigano, vous aurait pas dit ça il y a 5-6 ans, mais la crise, c'est ce qui lui arrivait de mieux depuis qu'il a repris la société. Parce qu'il en a profité pour restructurer sa société, gagner des parts de marché en organique, faire des acquisitions. Parce que quand vous allez mal, vos concurrents aussi vont mal. Donc faire des acquisitions chez les concurrents. Et voilà, et ça a été un effet multiplicateur qui a été phénoménal sur cette société. Il y en a plein d'autres. Mmh. Et puis, ce qu'il y a de bon aussi, c'est que c'est une remise en question permanente. Être entrepreneur, c'est une remise en question permanente. Et ces phases de crise permettent aussi de passer par là, je pense.
Alors, elles sont quand même... très souvent ignoré, on va dire, du grand public, hein, qui connaît le CAC 40 pour simplifier, et encore, pas tout le CAC 40, mais qui en connaît partie, alors qu'effectivement, dans la durée, où il y a Trigano, vous avez cité Trigano, on pourrait en citer d'autres qui vont faire x5 en chiffre d'affaires entre avant la crise et après la crise, je pense à Plasticomium, par exemple, c'est assez étonnant, c'est des vraies histoires, et qui arrivent dans la durée, je dirais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à mettre leur stratégie en place.
Exactement. C'est un univers, mais qui est tout à fait large. Le CAC 40, comme son nom l'indique, c'est 40 sociétés. Dans l'univers des small cap français, des small et mid cap français, vous avez plus de 400 sociétés. Donc c'est un univers très large, très hétérogène. Vous savez, on dit les small caps font généralement mieux que les large caps, mais c'est aussi un segment qui est très hétérogène. Entre la performance du premier quartile en 2017 et la performance du dernier quartile, vous avez 20-25 points d'écart, ce qui est colossal, hein. Ce qui est vraiment colossal. Donc encore une fois, c'est pour ça que le stock picking est très important. Mais effectivement, on a un environnement qui est très très fourni, qui n'est pas le plus fourni en Europe, et encore moins au niveau mondial, mais qui est très fourni. Et pour revenir à ce que vous disiez sur le grand public, moi, j'ai le sentiment qu'on a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce segment-là parce ils comprennent dans quoi ils investissent. Aujourd'hui, quand on achète du BNP, du Sanofi ou autre société du CAC 40, je ne suis pas bien sûr qu'on arrive à comprendre vraiment la stratégie qui est déroulée, est-ce qu'on a une vision vraiment de long terme, etc. En investissant dans ces sociétés-là, c'est souvent des sociétés dont on se sent assez proche parce qu'on est soit client, enfin, à un moment, elles font partie de notre environnement. Donc, soit on les comprend un peu mieux, soit on comprend bien l'histoire qu'il y a derrière. Donc, je pense que c'est plus propice à faire de l'investissement. Donc, c'est une lame de fond, hein, et c'est aussi pour ça que, à mon avis, les small caps performent bien. C'est parce qu'il y a une lame de fond et qui est très visible sur les flux. C'est que ça, dans le portefeuille d'un épargnant lambda, le segment small cap prend de plus en plus de place. Et ça, il y a des statistiques qui sont très fortes là-dessus. Quand vous revenez par rapport à 2007, la seule classe d'actifs actions en Europe qui est corrigée de la crise qu'il y a eu en 2007, hein, qui est en flux positif, c'est la catégorie small cap.
Alors effectivement, pour ces sociétés-là et pour le gérant, il y a aussi le fait que l'univers, il n'y a pas eu forcément beaucoup d'introductions en bourse, donc on retrouve peut-être un certain nombre de valeurs. On parlait de Trigano, voilà, qui font un beau parcours, mais peut-être que à un moment donné, il va falloir lâcher l'entreprise, parce que le gérant, il est là aussi pour réaliser sa plus-value, lâcher. Peut-être que c'est un autre fonds qui va venir et retrouver d'autres idées. Donc c'est aussi ça.
Exactement. Et là, encore une fois, il y a plusieurs choses dans votre question. Moi, la chose qui me fait le plus peur aujourd'hui, ce ne sont pas les valorisations, la hausse des taux, etc. C'est le renouvellement de la cote. Parce qu'effectivement, les belles introductions depuis la crise, on les compte sur les doigts d'une main, deux mains, enfin deux mains peut-être, en étant un peu plus gentil. Par contre, les belles sociétés qui sont sorties, il y en a eu beaucoup plus que ça. Donc le renouvellement de la cote est très important. Et puis, il y a des flux qui sont de plus en plus importants. Donc il faut pouvoir répondre à ces flux-là, pour éviter qu'il y ait un phénomène de bulle ou de se retrouver à investir dans les sociétés de mauvaise qualité. Donc ça, moi j'appelle de mes voeux, et il semblerait que dans le pack des introductions, il y ait quand même des dossiers assez sympathiques, donc à voir. Et ça, c'est un vrai sujet. Et puis après, vous soulevez un autre point, c'est qu'effectivement, moi, ma manière de procéder, c'est que je suis là pour le très long terme, pour 10-15 ans avec les sociétés. Par contre, elles ne seront pas tout le temps présentes dans mon fonds, et pas tout le temps au même poids aussi. Donc ça, effectivement, ça après, c'est le rôle du gérant. Mais par contre, il faut construire une relation très forte avec cette société. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rester stable dans son univers. Donc, moi, une société dont je suis plus actionnaire ou moins actionnaire, je vais faire le travail comme si c'était la première ligne de mon fonds.
Donc, il y a des opportunités. C'est aussi peut-être le mot de conclusion. Il y a un univers suffisamment vaste, finalement, pour se dire, tiens, je vais construire un portefeuille sur cette partie-là, sur ce segment-là.
Un univers suffisamment vaste et surtout des projets qui sont très ambitieux. Vous savez, hein, quand vous regardez les mots, les buzzwords un peu partout que vous avez, c'est intelligence artificielle, c'est industrie 4.0. Alors, les grosses sociétés sont exposées à 10, 20, 30% de leur chiffre d'affaires. Vous avez des sociétés dans le segment small cap, même dans le segment small cap français, où l'industrie 4.0, une société comme Lectra, l'industrie 4.0, c'est 100% de son chiffre d'affaires. Enfin, vous voyez? Donc, vous avez quand même des thématiques qui sont très, très fortes, hein, des thèmes de fond. La digitalisation, qu'elle soit des services, des entreprises, etc., ou de l'industrie, c'est une thématique de fond qui durera des années. Alors, après, il y aura évidemment des cycles d'investissement assez forts. Mais pour jouer cette thématique-là, vous avez des tas de véhicules cotés à Paris.
Merci, Sébastien Ribeiro, d'avoir
Merci
fait
à
le point
vous,
avec
Didier.
nous.